On en parlait tout à l'heure sur la garde d'enfants, mais ça vaut aussi pour l'alimentation. Ils font des profits colossaux, en réalité, sur la production de ces repas pour les cantines scolaires, etc. Donc, c'est clair que ça devrait être géré de façon beaucoup plus beaucoup enfin beaucoup plus sociale. Bon, le fait est que ça va pas forcément dans ce sens-là, et même des fois ça va dans le sens inverse. Je prends un exemple parce que ça m'avait un peu marqué. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, une personne qui avait ses enfants, bah justement dans une des écoles maternelles de Rouen, rive gauche, et qui me disait que non seulement évidemment il faut payer la cantine, mais en fait maintenant il devait aussi payer l'eau potable, puisqu'en fait dans cette école il n'y a plus d'eau dans les robinets depuis qu'il y a eu des travaux, etc. Il y a plus d'eau, donc ils sont obligés de payer des bouteilles d'eau en bouteille, en fait, pour que les enfants puissent boire dans la journée. Et même maintenant apparemment ils doivent payer le papier toilette, puisque la mairie en fait est en mode il y a plus d'argent, il y a plus d'argent pour payer ce genre de choses. Bon, on voit bien que de l'argent il y en a pour tout un tas d'autres trucs, mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure quand on va parler notamment question tranquillité publique, mais voilà quoi. Et donc c'est clair qu'il va falloir aussi se pencher sur tout ça, mais encore une fois ça nécessite aussi une certaine mobilisation, en fait, des gens contre ça, des familles, mais aussi des professionnels, en fait, dans l'éducation. Ceux qui savent le mieux finalement les conditions de tout ça, c'est les cantinières, les AESH, dans une certaine mesure les instits, etc., qui savent quelles sont les vraies conditions en réalité d'accueil des enfants que ce soit à l'école, à la cantine. Et donc qu'est-ce qui serait vraiment aussi nécessaire de ce point de vue-là.
Et pour rester sur le thème de l'école, on va parler aussi, et on l'a abordé dans cette émission, la précarité des animateurs. Comment mieux accompagner les animateurs payés au lance-pierre?
Non, mais c'est clair que les animateurs sont payés au lance-pierre. En fait, l'intégralité du personnel quand même dans les écoles, on disait juste avant, les cantinières, les AESH, etc., sont quand même payés à coup de lance-pierre. Et même pour les enseignants, c'est loin d'être très glorieux. Et ça rejoint, à mon avis, le point qu'on disait un peu avant. Pas un salaire en dessous de 2000 euros, c'est une vraie revendication et qui doit vraiment être mise en place. Par ailleurs, il y a aussi tout un tas d'autres problèmes pour justement les animateurs et tous les personnels qu'on voit des fois comme un peu annexes dans les écoles, qui au-delà du salaire et aussi des emplois du temps extrêmement fractionnés, en fait, où en fait on vient bosser 1 heure, 2 heures le matin pour l'accueil des enfants, et en fait faut revenir bosser 2 heures le midi pour la cantine et revenir bosser 2 heures le soir pour la fermeture, et en fait tout ça, ça fait pas des journées complètes. Donc en fait ça veut dire qu'on s'est brûlé toute sa journée parce qu'on peut pas se faire des allers-retours chez soi et faire vraiment des choses intéressantes et tout ça pour un salaire qui à la fin est qu'un demi-salaire, parce qu'en fait on a bossé officiellement que des mois moitié de journée, alors qu'en réalité on s'est levé hyper tôt le matin et on s'est couché après tout le monde. Mais c'est pas grave, ça compte pas, et donc ça c'est aussi des choses sur lesquelles il va falloir revenir.
Et puis un exemple concret, un animateur qui travaillerait tous les midis est payé à peu près à la mairie de Rouen entre 300 et 400 euros.
Ah oui, non, mais c'est en fait comment pourrait-on manger, payer son loyer, etc. avec 300 ou 400 euros? Ça c'est pas possible. Et en fait, au-delà du montant nominal qui est déjà du montant nominal du salaire qui est déjà indécent, en fait c'est effectivement ce fractionnement, ces conditions, ce nombre d'heures là qui est complètement aberrant. Par ailleurs, on pourrait aussi avoir plus de personnel, parce qu'en fait tout un tas de, enfin je veux dire, aujourd'hui les classes sont quand même surchargées, les enfants quand ils sont dans ces temps périscolaires ou dans les temps d'enseignement ou dans les temps un peu annexes et tout, en fait ils sont quand même un peu sous-encadrés quoi, dans plein de situations. Enfin, on se retrouve avec un encadrant pour 30 enfants. Enfin, c'est pas possible en fait de faire des choses convenables, pour les animateurs, de faire des animations en fait qui sont satisfaisantes dans ces situations. Donc on pourrait envisager quand même d'embaucher nettement plus de monde, payer nettement mieux et avec des journées pas du tout fractionnées, des contrats de travail normaux. Mais ça, encore une fois, ça implique aussi une mobilisation de l'ensemble des gens qui bossent là-dedans quoi.
On parle souvent de jeunesse, jeunesse plurielle, jeunesse en général. Je vais essayer de poser une question à peu près claire et concise. Pour vous, quelles sont les priorités des jeunes de Rouen, qu'elles soient étudiants, qu'ils soient en dehors des écoles, comment justement, je vais essayer de donner un exemple concret pour que vous puissiez y répondre. Comment accompagner des jeunes entre 16 et 25 ans qui sont éloignés de l'école, mais qui sont hors cadre, entre guillemets, soit du monde associatif ou soit des accompagnements comme la mission locale?
C'est une très bonne question, c'est vrai. Il y a peut-être que je vais un peu tricher et pas tout à fait répondre précisément à comment il faudrait les accompagner. Par contre, je vais répondre à comment il ne faudrait pas les accompagner, parce que le gouvernement à l'heure actuelle et toute une partie du patronat a un projet politique assez précis en fait pour tous ces jeunes entre 16, 18 et un peu plus vieux, qu'ils appellent le service militaire en fait, qu'ils avaient il y a quelques années. Introduit timidement sous la forme du SNU, qui avait pas été, donc le service national universel, qui avait pas été un franc succès, notamment parce qu'une partie même de l'armée était pas trop à fond là-dedans. Là, il y a l'introduction d'un service militaire pour l'instant volontaire. En fait, l'avenir qui est dessiné, en fait, pour tous ces jeunes entre 16 et, je sais pas, et 25 ans à peu près, qu'ils soient ou pas en décrochage vis-à-vis de l'école, c'est quand même le même, c'est les mettre au pas, leur mettre un fusil dans les mains, pour en fait les envoyer alors peut-être dans des guerres contre d'autres jeunes à l'étranger, peut-être aussi beaucoup plus, en tout cas quand on entend un peu les discours dans les médias, plutôt les envoyer réprimer en fait leurs propres frères de classe, notamment dans les colonies françaises en fait, quand on voit les émeutes qu'il y avait eu en Kanaky pour des raisons extrêmement légitimes contre le gouvernement colonial français et la répression sanglante en fait qu'il y a eu de la part du gouvernement français contre ces émeutes, on entend un peu là que le projet, ce serait que ces jeunes qu'on envoie au service militaire, ce serait de les poster justement dans ces territoires coloniaux pour y faire un peu du maintien de l'ordre colonial français, un peu ce genre de choses. Et visiblement, l'avenir qui est dessiné pour les jeunes par le gouvernement, mais je le dis, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est beaucoup un truc que nous, on a envie de défendre, contre, hein, évidemment, on est contre cette logique de service militaire.
Effectivement, on aurait compris que l'idée n'était pas de défendre le service militaire. Après, là, je précise juste deux, trois petits trucs. La Kanaky, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et que, effectivement, si on revient à cet esprit-là, c'est-à-dire qu'en fait, on fait à peu près 70, 80, voire même 100 ans en arrière. Parce que c'était à peu près ce que l'armée française faisait avant la création de la police, etc. En général, on envoyait l'armée pour réprimander l'ordre public.
Oui, tout à fait. Bah,
je fais juste un petit point historique pour que tout le monde se retrouve.
Oui, a fortiori, dans les colonies, la répression est toujours d'une violence encore plus exacerbée qu'à l'intérieur de l'Hexagone, où elle est déjà quand même assez violente, notamment dans les quartiers. Mais oui, et si je revenais sur l'importance de cette rhétorique du service militaire, etc., c'est parce qu'en fait, elle est défendue quand même par l'intégralité aujourd'hui des forces politiques institutionnelles. Alors, de l'extrême droite et de la droite classique, évidemment, puisque c'est leur rhétorique sécuritaire, en régimentement, etc. Mais en fait, elle est aussi défendue par la gauche institutionnelle, comme du PS jusqu'à la France insoumise, en réalité, qui voit une manière de redonner un sens à une jeunesse, de recréer une forme de cohésion, etc. Une cohésion qui, pour eux, passe par une cohésion nationale. Or, nous, si on a un projet pour la jeunesse, justement, c'est que cette jeunesse n'est pas de cohésion nationale, qu'elle détruise cette logique qu'on serait tous dans le même banc parce qu'on serait français. Et donc, en fait, les enfants des ouvriers français, ils auraient les mêmes intérêts que les enfants de Bernard Arnault, etc. Ça, c'est pas vrai. Et nous, on pense que si la jeunesse, elle doit se créer une cohésion, c'est une cohésion de classe, c'est-à-dire une cohésion en tant que jeunesse ouvrière et issue des milieux populaires. C'est cette logique qu'on défend. Et donc, si on a un projet pour la jeunesse, c'est plutôt de lui proposer de s'engager pour lutter, en fait, contre le capitalisme, contre les exploiteurs. Nous, si on doit dire quelque chose aux jeunes entre 16 et 25 ans qui ne savent pas trop encore qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, on peut leur proposer de faire de leur vie, de renverser en fait le monde capitaliste, de s'engager, de lutter, alors d'aller dans toutes les manifestations qui existent pour découvrir un peu ce que c'est, etc. Mais aussi de s'engager dans des partis politiques ou dans des associations, dans des syndicats, de lutter contre leurs exploiteurs et de lutter contre la boucherie en fait que nous préparent les dirigeants du monde capitaliste, de nous envoyer à la guerre les uns contre les autres.
C'est intéressant. Amaury, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ces questions, mais par exemple, on parlait du service militaire. Que pensez-vous du service civique, qui est aussi une forme d'engagement, qui est peut-être justement loin de vos idées, ou peut-être que vous êtes pour, mais pour l'améliorer, je ne sais pas.
Excellente question. En fait, le service civique, faut voir ce que c'est. C'est prendre des jeunes qui sont privés d'emploi, en fait, qui sont au chômage et qui cherchent un travail à la base normal, entre gros guillemets. En fait, ils sont quand même prêts à accepter les emplois les plus sous-payés. Et on leur dit non, mais même ces emplois-là, même ces emplois au SMIC, même à temps partiel, tu les auras pas, c'est pas possible. On va te proposer un emploi encore moins payé, qu'on a appelé le service civique pour faire genre tu sers un grand intérêt supérieur, etc. Qui serait, mais ce n'est pas un travail, c'est un engagement. Un engagement, c'est formidable. Et en fait, ça justifie de payer ces jeunes 600 euros par mois, c'est même un peu moins que ça, pour aller bosser quand même entre 24 et 30 heures semaine. Enfin, c'est énorme, c'est presque un temps plein dans un travail qui est donc payé la moitié du SMIC, enfin même moins que la moitié du SMIC. C'est assez formidable. Alors, soit normalement dans des choses qui ne sont pas des vrais travaux, etc. Bon, en fait, quand même, dans la moitié des cas, on se rend compte qu'ils remplacent tout simplement des agents qui faisaient ce taf avant de façon professionnelle, enfin avec un salaire, etc., un contrat normal. Donc voilà, en les surexploitant, en les payant à peine la moitié du SMIC, en les privant en plus de tout un tas de droits de base qu'ont les travailleurs. Alors par exemple, ils n'ont pas droit au remboursement des transports par le patron, ce genre de choses. Enfin bon, on passe complètement par-dessus le code du travail. Et en plus, à la fin de leur mission, on les jette juste comme des vieilles chaussettes en leur disant bah ça y est, maintenant c'est terminado. Et puis bah va te trouver un vrai taf, chômeur, quoi. C'est vraiment ce genre de logique qui est mise en place. Et ça attire en plus vers le bas l'ensemble des salaires, comme d'hab, parce que tous les jeunes aujourd'hui, la seule chose qu'ils se disent, c'est je n'aurai de toute façon pas un travail, donc je vais commencer par un service civique. Donc en fait, c'est devenu normal, quand tu as 19 ans, de bosser pour 600 balles par mois.
Ouais, c'est bien, en plus, il connaît le prix. Effectivement, c'est vrai qu'on pourrait penser ça. Après, il y en a qui vous diraient aussi que le monde associatif utilise le service civique justement pour avoir aussi des jeunes et leur faire voir comment fonctionne le monde associatif. Je comprends votre logique sur le plan, on va dire, mais des institutions telles que les départements, les mairies ou la région qui se sert des services civiques, on va dire, pour remplacer des métiers existants. Mais le monde associatif aussi en a besoin parce que vous savez qu'actuellement les budgets du monde associatif sont toujours en train de baisser et que s'il n'y avait pas ces moyens-là, peut-être que les associations manqueraient de monde.
Oui, alors tout à fait, on peut poser effectivement le problème comme ça. Bon, c'est vrai que quand même, quand on voit la proportion de services civiques qui sont non pas pris par des associations, mais bien par des organismes publics, genre Pôle emploi est le premier employeur de services publics, ça fait quand même beaucoup réfléchir sur... des services civiques, j'ai peut-être mal dit. Ça fait beaucoup réfléchir sur qui crée ces services civiques et à qui ils servent finalement quand c'est le Pôle emploi lui-même qui... Enfin, bon, ça pose beaucoup de questions. Mais effectivement, on peut se dire que pour les associations, c'est une aubaine et c'est vrai. Et en même temps, ça pose un peu la question, déjà, si les associations sont obligées de faire appel à des services civiques, etc., est-ce que c'est pas parce qu'elles manquent déjà énormément de moyens à la base ? Ça, c'est quand même une vraie chose, parce que si elles avaient des moyens beaucoup plus importants, elles pourraient en fait se permettre, pour certaines tâches, d'embaucher des permanents ou des salariés normaux pour d'autres tâches, en fait, bon, voilà, de trouver d'autres moyens. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, les gens, s'ils avaient tous un travail normal payé, mettons, 2000 euros, en fait, ils n'auraient pas besoin d'un service civique pour s'engager dans l'associatif. Ils s'engageraient dans l'associatif pour une radio, par exemple, de façon finalement bénévole, parce qu'en fait, ils auraient déjà de quoi vivre décemment, pareil.
Merci pour cette réponse sur cette thématique. Nous allons passer maintenant à la tranquillité publique. La tranquillité publique, un thème un peu lourd, un peu agaçant, mais un peu sûr aussi pour des gens qui s'inquiètent de leur sécurité. Amaury, vous et votre collectif, le NPA, le parti du NPA, qu'est-ce que vous proposez pour justement parler de tranquillité publique? Est-ce qu'on doit armer la police? Est-ce qu'on doit diminuer la police municipale? Est-ce qu'on doit mieux former la police municipale? Est-ce qu'on doit mettre des médiateurs de rue peut-être pour accompagner les jeunes et la tranquillité publique dans le quartier? Quelles sont vos propositions?
Alors, c'est vrai que, bon, quand même, la question de la tranquillité publique, la sécurité, les noms sont un peu variables, etc. Elle revient énormément dans les municipales. C'est une préoccupation des gens qui, à mon avis, est très sincère. C'est quand même une préoccupation qui est surtout extrêmement mise en avant par tous les médias, en fait, qui ont décidé depuis quelques années maintenant de faire tout leur beurre, en fait, sur la question de la tranquillité publique. C'est aussi le beurre, en fait, de l'extrême droite, de faire tout son bis sur cette question de la sécurité. insécurité, les quartiers sont devenus dangereux, etc. Bon, déjà, ça, faut quand même mesurer quelle est vraiment, enfin, je veux dire, a priori, on peut encore se balader à Rouen sans se faire poignarder. Enfin, je pense que sinon, je serais au courant. Donc, voilà, cette question est quand même extrêmement, extrêmement mise en avant pour en cacher d'autres. En fait, l'insécurité dans les rues, la soi-disant insécurité dans les rues, elle sert quand même à camoufler la vraie insécurité de, par exemple, perdre son taf du jour au lendemain pour aucune raison. L'insécurité dans les rues, elle sert aussi à camoufler l'insécurité que demain une guerre nous tombe sur la tête ou ce genre de choses. Donc quand même, voilà, méfiance un peu sur, à mon avis, sur cette question de l'insécurité. Par ailleurs, évidemment, il y a des vrais soucis. Je veux dire, des agressions existent dans la rue, etc. Est-ce que c'est la police qui va y remédier? Absolument pas. En réalité, c'est plutôt la police qui en causerait. Enfin, je veux dire, quand on voit le nombre de manifestants ou de jeunes dans les quartiers qui ont été éborgnés par les tirs des policiers de LBD, enfin, c'est quand même pas ça. Vous n'allez pas me faire croire que c'est les gens avec des LBD qui vont assurer notre sécurité. Ça, c'est pas possible. Armer la police municipale, bon, bah, on voit bien que c'est encore plus absurde. On va mettre des LBD dans les mains de gens qui sont encore, enfin, enfin, vous voyez, ça tient pas à la route, a priori, comme logique. Renforcer ses effectifs, mais les renforcer pour quoi faire? Pour qu'il y ait plus encore de jeunes dans les quartiers qui se prennent des bavures policières, pour qu'il y ait encore plus de Naël ou de choses comme ça. En fait, ça voudrait dire ça, renforcer les effectifs de la police. Pour nous, ça, c'est absolument un contresens et on peut absolument pas aller dans ce sens-là, en réalité.
Et justement, pour vous, quelles sont les propositions justement liées au thème de la tranquillité publique? Est-ce qu'on doit mieux, par exemple, faire intervenir des éducateurs de rue, chercher l'apaisement? Voilà, je vous laisse un peu pouvoir répondre à la question de façon ouverte et j'ai pas forcément envie de préciser de thème parce que je sais que le terme de tranquillité publique, selon là où on se place, bah, il est différent de la vision qu'on peut avoir.
Sur la tranquillité publique, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Effectivement, si on ne demande pas le nombre de policiers, en fait, on pense que quand même les gens, ils sont pas si violents que ça et qu'ils sont quand même un peu capables de se raisonner eux-mêmes et de beaucoup discuter. Mais aussi, en fait, il faut voir quelles sont les causes des violences. En fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'insécurité, entre guillemets, publique, quoi que ça veuille dire? En fait, est-ce qu'on parle des vols, par exemple, parce que c'est, oui, des fois on se fait voler un téléphone, un sac à main, etc. Mais en fait, pourquoi les gens y volent? Ils volent parce que c'est la misère, parce que c'est la précarité, parce qu'ils n'ont pas de quoi bouffer et qu'en fait, en volant ça, ils pourront peut-être finir leur mois parce qu'ils n'ont pas de travail et qu'en fait, c'est impossible de se payer à bouffer. Bon, bah, le meilleur moyen de remédier au vol, a priori, ce serait que chacun est de quoi vivre dignement. Et en fait, personne n'a d'intérêt, personne n'a une passion pour braquer des vieilles dames dans la rue, ça n'existe pas. Et donc en fait, si les gens ils avaient de quoi bouffer, ils voleraient pas des sacs à main ou ce genre de choses. Bon, voilà, ça c'est un des exemples. Les agressions sexuelles, etc., qui ont lieu effectivement dans les transports, dans la rue. Faut rappeler d'ailleurs que c'est absolument pas la majorité des violences qui sont faites aux femmes et aux enfants. Elles ont plutôt lieu dans le cadre familial que dans la rue. Et toute l'extrême droite qui quand même regarde énormément vers les soi-disant agressions de rue qui seraient commises par les méchants migrants avec des couteaux entre les dents. Ils feraient beaucoup mieux de regarder chez leurs amis voilà, hein, qui font ça, mais à l'abri des regards sur leur propre famille, ce qui est pas vraiment beaucoup plus glorieux à mon opinion. Bon bah voilà, ça passe aussi par une prise de conscience de l'ensemble de la société. Ça c'est aux travailleurs à un moment de s'en saisir aussi, de les faire passer par les voies qui sont les leurs et par la lutte pour des meilleures conditions en général, pour moins de précarité aussi en général. Ça réduit les possibilités des agressions, etc.
Et peut-être aussi, si on ne faisait plus de liens entre voisins, si on construisait de l'écoute, des comités de quartier, des rassemblements fraternels, peut-être qu'on éviterait aussi beaucoup de problèmes et de malentendus.
Oui, c'est très clair. Ben, en fait, une bonne partie des malentendus, de l'agressivité un peu latente, etc., qui existe entre les gens et qui exacerbe en fait le moindre les moindres conflits qui seraient juste des disputes, peuvent se transformer en situations violentes. En fait, ils sont aussi causés par la division permanente qui est semée entre nous, en fait, à travers les médias, à travers la propagande du patronat, etc. Il y a beaucoup de divisions racistes, de divisions islamophobes, sexistes, etc., qui tendent à dire qu'en fait le voisin serait le danger parce que, je sais pas, mon voisin est noir ou que sais-je, et qu'en fait, il serait là pour grand remplacer notre famille. Vous voyez, ce genre de choses. En fait, effectivement, on gagne énormément à connaître ses voisins, en fait, à connaître ses frères et sœurs de classe, à connaître les autres gens qui sont comme nous, des travailleurs, des membres des classes populaires, des jeunes, des gens privés d'emploi, etc., et qui, en fait, ont un intérêt, nous avons intérêt à être solidaires les uns des autres et à nous opposer à nos seuls vrais ennemis qui sont ces grands patrons qui diffusent justement cette propagande de division. Et donc évidemment qu'on éviterait aussi énormément de conflits, de petits accrochages, etc., de choses qui dégénèrent si on avait une conscience supérieure du fait qu'on a plutôt un intérêt commun et qu'on n'a pas intérêt à s'embrouiller pour les divisions qui sont semées dans.
Quand je vous ai demandé de venir à la radio, je vous ai demandé aussi de préparer une carte blanche, donc nous allons maintenant y passer. Alors du coup, je vous ai demandé de préparer votre carte blanche, donc je vous laisse nous la présenter. Et...
Ça marche, merci.
À vous, comme on dit.
Moi. Non, mais j'ai réfléchi un peu à qu'est-ce que j'allais pouvoir dire et tout, et je me suis dit que peut-être ça valait le coup d'expliquer, mais pourquoi en fait voter finalement pour une liste du NPA révolutionnaire et pour des révolutionnaires en général? Parce que c'est vrai que on se présente pas ici à la gestion des affaires de la bourgeoisie. On n'a pas la prétention qu'on va devenir maire et qu'on va gérer tout le conseil municipal de Rouen. On n'a pas la prétention qu'on va faire à la place des gens une politique qui sera absolument formidable, qu'on va construire tout un tas de parcs et d'écoles et que demain, en fait, Rouen, ce sera une ville absolument formidable, votez pour nous, etc. Ça, nous, on le dit pas. D'ailleurs, pourquoi voter pour nous? Bah, justement, parce qu'on dit pas, en fait, ce genre de choses, parce qu'on n'est pas des politiciens menteurs qui cherchent à gratter des postes. En fait, on est des gens comme probablement l'extrême majorité des auditeurs. On est des jeunes et des travailleurs, on est des cheminots, des ouvriers, des caissières, des étudiants, des infirmières, des profs. Vous voyez, les gens qui, en fait, font tourner au quotidien l'ensemble de la société, les gens sans qui ce monde, il n'existerait pas, nous et en fait l'ensemble des autres travailleurs. Et on n'est pas justement ces grands bourgeois et ces grands patrons et ces politiciens à leur service qui ne vivent que du profit, qui ne vivent que de la rente qui est générée par notre exploitation. Et rien que ça, en fait, c'est un argument pas juste parce que on est plus cool, etc., mais parce qu'en fait, voter pour des gens comme nous, pas pour gérer la ville, mais pour être la voix, en fait, de ces gens qui sont les jeunes et les travailleurs, les gens qui font tourner la société, pour aller déranger, en fait, dans l'ensemble de ces institutions qui sont aujourd'hui gérées par les politiciens au service du capitalisme, pour leur dire, en fait, vous ne serez jamais tranquille où que vous soyez, ou que vous prétendiez gérer pour les autres les affaires, on sera là pour aller vous chercher, pour vous épingler, pour vous attraper par le col et pour vous secouer les puces en fait jusqu'au bout. Mais faut préciser aussi dans cette logique-là que qu'on soit élu, qu'on soit pas élu, etc. Ça, c'est vrai, ça ne changera rien en fait. On pense que être élu à la direction de telle ou telle mairie, mais en fait, même aussi à la direction d'une région ou même à la direction d'un État, en fait, même si demain on était président de la République, on le dit, ça ne changera rien, ça ne changera pas la situation, ça ne renversera pas le capitalisme. Et la seule chose qui peut vraiment changer, c'est la lutte des travailleuses et des travailleurs, c'est la lutte de tous ceux qui veulent que cette société elle change. Et en fait, avant tout, voter pour les révolutionnaires, pour nous, c'est montrer, envoyer un message que, en fait, on en a marre de cette société capitaliste qui tourne juste pour les profits d'une minorité, qu'on en a marre, qu'on a envie que ça change, et c'est envoyer le message que ce sera pas des politiciens qui feront à notre place, c'est aussi envoyer un message qu'on est contre la logique du nationalisme, qu'on est contre les logiques racistes, qu'on est contre ce genre de stratégie de division, qu'on ne veut pas rejeter les maux engendrés par la société capitaliste sur les étrangers ou sur n'importe quelle minorité opprimée dans ce pays, mais qu'en fait la faute, c'est la faute des patrons, c'est la faute de ceux qui nous exploitent, et qu'on veut lutter, et que le seul moyen de mettre fin à cette société d'exploitation, ce sera la lutte. Cette lutte, ça passe par les manifestations massives, elle passe par la grève générale et elle passe par une perspective révolutionnaire. Et en fait, voter pour nous, c'est ça la logique que ça défend. C'est pas une logique d'accompagnement du capitalisme, c'est encore moins une logique xénophobe bout raciste, c'est vraiment une logique de lutte, de combat et de refus en fait de toutes les attaques qui nous sont faites, de refus de l'austérité, de refus des salaires de misère, de refus pour la jeunesse de la militarisation, de refus d'une bourgeoisie qui mène des guerres à des peuples opprimés en Palestine, au Soudan, en Iran, etc. C'est le refus de toutes ces politiques guerrières, génocidaires, exploitatrices, et c'est une volonté de bagarre, de combat et d'enfin avoir un monde pour les jeunes, pour les travailleurs qui soient émancipés de l'exploitation.
Eh ben, je vous remercie. J'ai encore une dernière question avec une... essayez de me répondre avec une réponse courte. Imaginons que demain vous êtes maire de Rouen, vous et vos camarades, quelle serait votre première décision?
Réponse très courte. La première décision, ce sera la réquisition de l'ensemble des logements vacants. Ça, c'est la plus simple et c'est la plus rapide. Mais par ailleurs, ce sera surtout de dire que qu'on soit élu ou qu'on soit pas élu, ce sera la lutte qui fera que les travailleurs obtiendront gain de cause.
Eh ben, je vous remercie. Donc, on va repasser maintenant la parole à Inès. En tout cas, merci d'être venu sur l'antenne de Radio HDR. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Merci à vous deux. Merci à Maury, Renaud. Merci, Naïm, d'avoir pu animer cette émission La Voix des Municipales. On arrive à la fin de cette émission de 18h à 19h. Retrouvez le replay de l'émission dès demain sur la chaîne YouTube de la Radio HDR et aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre les actualités de la Radio HDR. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission de La Voix des Municipales. À bientôt et très bonne soirée à l'écoute de la Radio HDR.
Tu le prends comme tu le veux.
Écoutez.
Alors,
vous êtes
vos policiers?
Non, madame, les musiciens.
Les gens qui n'ont pas plus de confiance que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je vous venir vous en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français.
On le fait pour nous, on le fait pour ceux qui nous écoutent. Et si c'est pas dans tes radios, qu'est-ce que tu veux que ça nous foute?
Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne pensent pas.
You're listening HDR.
Le mix des cultures.
C'est toujours Alexandre qui voulez-vous que ce soit?
HDR.
HDR The Mix 99.1.
Si, si, 6, 10, c'est Crump, c'est que le Queen's Prix, Gizzy, je terrifie les petites billes de Hustler qui imitent ma technique dealer.
HDR 99.1.
Bitch, let it go, bitch. I see you tryna come, tryna get on, bitch. You going trip, slip, fall, then I make on dick. And be the same nigga about to come and lick on this. All up.
Come on now, shit.
HDL mix.
Sometimes it a be a stunt here. Say certain girl a real animal here. But you better steer and share. You come and see yourself.
991.
HDR, 24h sur 24, le mix tout qu'il tire.
Radio HDR.fr.
HDR.
C'est sur le
99.1.
Le mix.
Echo Out Session sur Radio HDR, le vendredi à 23h, vendredi le lundi à 2h.
DJ Aratek.
Microsession par DJ Aratek.
Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire.
Ça y est, je capte un signal.
Écoutez.
Et tous les dimanches, dès 22h, voyagez dans le spectre sonore du solénoïde.
Qu'est-ce qu'il dit là ? De quoi il parle ?
Ah ben ça, je sais pas.
En l'espace de 60 minutes, solénoïde vous fera traverser des paysages sonores insolites.
Qu'est-ce que tu vois ?
Solénoïde, et tous les dimanches, dès 22h.
Repartons, je vous emmène tous les vendredis dès 13h20 et le samedi suivant dès 8h sur Radio HDR 99.1 FM. Repartons, c'est la rencontre avec des passionnés et des professionnels. C'est des discussions et des réponses sur des sujets qui nous intéressent et nous concernent. Repartons, c'est tous les vendredis dès 13h20 et le samedi suivant dès 8h sur Radio HDR 99.1 FM.